Les podcasts du Collège de France, biologie.
Bon, bonjour. On va commencer donc une série de 5 séances. Et ce que je pense, c'est que la 5e séance, qui est gratuite, est une séance qui sera plutôt destinée à des questions, à une discussion, ou bien terminer si je n'ai pas eu le temps de terminer. À vrai dire, je suis un tout petit peu indécis sur la façon de procéder parce que je ne sais pas à quel. J'avais dit que ce serait technique, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui étaient là. J'ai peut-être essayé d'enrober un tout petit peu pour que ce ne soit pas trop technique au départ et puis il y aura des moments un peu hard. Parce que j'ai en plus vous présenter des choses que je n'ai pas forcément entièrement moi-même comprises. Mais bon. Si vous avez des commentaires à faire en cours de route, vous pouvez des précisions à apporter. Vous êtes les bienvenus, bien entendu. Ou même arrêter un petit peu. Bah, on peut prévoir de discuter vers 5 heures et puis reprendre après. Ou bien on peut faire d'une traite. Enfin, on verra comment vous vous sentez, comment je me sens aussi. On va essayer d'aller à tâtons, hein, c'est ma devise. Donc. À tâtons, j'ai déjà essayé d'utiliser cette chose-là, ce qui n'est pas évident. Voilà. Donc, la question que j'aimerais traiter avec vous aujourd'hui, et pendant les 5 semaines ou 5 séances qui viennent, c'est essentiellement la question des morphogènes et de la morphogenèse. Donc, c'est une question vaste qui a été. Au fond, la question, c'est quelle est la part génétique dans la création des formes et dans l'évolution des formes, et comment le processus se fait au cours du développement. C'est-à-dire, prenez un œuf de mouche, il sort une mouche. Mais bon, ça a l'air simple, mais ce n'est pas si évident que ça, parce que c'est un œuf et c'est des milliards de cellules plus loin qu'on a un organisme qu'on aurait pu prévoir dès le début, mais il s'est passé beaucoup de choses. C'est ce qu'on appelle la morphogénèse. Et comme il sort toujours le même animal de l'œuf qui sort de cet animal, ça veut dire qu'il y a quelque chose de génétique, hein, qu'on passe de génération en génération, mais en même temps, il y a un processus de construction qui respecte ce plan. Et au fond, c'est de ça qu'on va parler dans les très grandes lignes. Donc, j'ai commencé avec cette citation de Turing, parce que c'est Turing, comme vous savez, en 1952, qui a inventé le terme de morphogène. Turing est un mathématicien, même un très grand mathématicien. C'est lui qui a inventé la plupart, avec von Neumann, des concepts qui ont amené à la fabrication des ordinateurs. C'est lui qui a contribué à élucider le code Enigma, comme vous savez, qui est le code qui a permis d'empêcher l'envahissement de l'Angleterre par les sous-marins allemands. C'est aussi un philosophe. Avec un article « Les machines pensent-elles » dans la revue Mind, c'est un grand philosophe de l'esprit. Il a écrit 4 articles dans sa vie, c'est-à-dire qu'il a un tout petit facteur H, mais ces articles ont été extraordinairement cités. 4, ce n'est pas beaucoup, mais on en parle toujours. Donc, comme vous pouvez voir sur cette diapositive, que vous pouvez lire en même temps que moi, c'est une définition extraordinairement vague qu'il donne des morphogènes. Et ça, c'est intéressant parce que aujourd'hui, si vous regardez dans la littérature, la définition de morphogène, un morphogène, c'est une molécule qui doit être synthétisée dans un coin, qui doit diffuser, qui doit agir directement sur les cellules. Il y a tellement de conditions pour être un morphogène qu'on se demande qui peut être morphogène au bout du compte. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'y en a pas tellement, somme toute, probablement. C'est un petit peu comme les gens qui définissaient les neuromédiateurs. Ça doit être une petite molécule qui est libérée dans la synapse, qui se met sur un récepteur avec une affinité X. Finalement, la plupart des choses n'étaient pas des neuromédiateurs, ni la dopamine, ni les peptides. Donc, j'aime beaucoup cette définition de Turing parce qu'il dit ce sont des évocateurs au sens de Waddington. Hein, donc, it is not intended to have any very exact meaning. Voilà, mais c'est simplement une sorte de substance qui est concernée avec la théorie. Alors, c'est quand même formidable comme définition, on ne peut pas faire beaucoup plus vague. Et les évocateurs de Waddington sont un bon exemple de morphogène. Alors, vous savez qui est Waddington? Waddington, c'est un Écossais qui a inventé pas mal de concepts sur lesquels les gens travaillent aujourd'hui, par exemple la robustesse, dans les processus développementaux, les créodes, la canalisation, sur lesquels je reviendrai probablement cette année au cours des heures qui viennent, des semaines qui viennent. Hein. Donc ces évocateurs doivent diffuser dans un tissu pour le persuader, pour ainsi dire, hein, de se développer selon des voies de différenciation différentes de voies dans lesquelles il se serait développé naturellement ou tout seul. Donc ça, c'est quand même aussi très, très vague. Et alors, les gènes eux-mêmes, là, ça devient intéressant. Vous verrez pourquoi, en ce qui me concerne, ça devient intéressant. Vous verrez peut-être dans 5 semaines, si on va jusque-là, si vous allez jusque-là. Moi, je suis tenu quand même d'aller jusque-là. Donc, les gènes eux-mêmes peuvent être considérés comme des morphogènes. Seulement, voilà, on est en 52, hein. Je ne sais pas si vous réalisez, parce qu'on vient de découvrir, en fait, les gènes, d'une certaine façon. Hein. Donc, on est en 52, il dit les gènes eux-mêmes peuvent être considérés comme des morphogènes, mais c'est des morphogènes d'une classe plutôt particulière, car ils sont indiffusibles. Évidemment, les gènes ne se diffusent pas, peut-être. Mais, et c'est seulement par courtoisie que les gènes peuvent être regardés comme des molécules séparées, parce que, à l'époque, évidemment, on savait qu'il y avait des grands chromosomes. Les gènes, c'est très long. Le problème, c'est de savoir comment des petits morceaux là-dedans, ATGC, c'est pas très varié, peuvent gérer une information importante, nécessaire au cours du développement et au cours de la physiologie aussi des organismes. Et donc, il serait plus précis de les regarder comme des radicaux d'une molécule géante, hein, qui est le chromosome. Mais, voilà, donc... Est-ce que les gènes peuvent diffuser? Vous allez voir que je pense que d'une certaine façon, on peut dire que les gènes peuvent diffuser, mais c'est une affaire plus lointaine. Alors en bas, vous avez Turing en coureur. Vous savez que Turing était un grand coureur. Il a été dans l'équipe de marathon d'Angleterre. Et là, c'est en raison de la fin triste de Turing. Turing aimait beaucoup Blanche-Neige. Et Turing s'est suicidé en avalant en croquant une pomme empoisonnée qu'il avait fait macérer dans du cyanure. C'est la pomme que vous voyez sur les ordinateurs Apple. Ce qui manque, c'est ce qu'a mangé Turing. Donc, elle est empoisonnée. Donc, voilà. Donc, il y a une autre définition qui a été donnée bien avant celle de Turing, qui est une définition qui est donnée par Morgan. Alors, lui, c'est à la fin du 19e siècle, vers 1895-1897. Et que Morgan, qui s'intéressait également à la morphogénèse avant de devenir le généticien que vous connaissez et d'arrêter de travailler directement, en tout cas, sur les morphogènes. Et là encore, remarquez à quel point il est extrêmement large dans ses définitions. On est concerné ici par quelque chose qui est connecté avec l'organisation du ver lui-même. Travailler sur le ver, travailler aussi sur les hydres. Et on pourrait parler que les cellules du ver contiennent une sorte de stuff, un truc quoi, hein, qui est plus ou moins abondant dans les différentes régions du corps. Le truc de la tête. Diminue graduellement, comme nous allons dans les régions de plus en plus postérieures, et le truc de la queue s'accroît dans la même direction. Donc, nous devrions aussi penser de ce truc dans les cellules comme s'il devenait actif pendant la régénération. Hein. Donc, vous savez bien quand entre les hydres, c'est comme les salamandres, sont des animaux très très intéressants parce que ça régénère. C'est-à-dire, vous coupez une hydre, vous la coupez en deux. Et puis vous refaites le bout de queue ou le bout de tête. Et les gens qui sont intéressés à ces questions de morphogénèse se sont au départ beaucoup intéressés à ces processus de régénération. Je pense qu'on a peut-être le temps d'en parler aussi. Donc, tout ça, vous voyez, c'est ce que j'aimerais insister là-dessus, c'est que c'est quelque chose qui est général. Je ne prétends pas expliquer, je n'ai pas que ça explique quoi que ce soit. Mais ce sont des arguments qui rendent compte des résultats comme nous les voyons, d'une certaine façon. Alors, À la suite de ces affaires, il y a eu un très grand nombre de modélisations. Et là, j'aimerais attirer un tout petit peu votre attention sur les difficultés énormes qu'il y a à modéliser parce que une des choses qui est assez frappante dans la morphogenèse, c'est que c'est quelque chose qui a beaucoup attiré les mathématiciens et les modélisateurs. Quelqu'un comme Turing est un mathématicien, Waddington était un modélisateur. Vous allez voir Volpert, qui est un des théoriciens, est aussi un matheux, plutôt un ingénieur au départ. On ne peut pas faire de peine aux vrais mathématiciens ici. Donc, ça a beaucoup attiré les gens qui aiment faire de la biologie mathématique, de la biologie théorique. Donc, il y a beaucoup de modèles qui ont été mis en place, et des modèles qui ne sont pas toujours... Il faut faire gaffe avec les modèles. C'est utile, hein, bien entendu. Mais enfin, bon, il faut les prendre avec des pincettes et j'aimerais vous expliquer un tout petit peu pourquoi. Donc là, par exemple, c'est une aile de mouche. Est-ce que vous voulez que je vous explique comment se développe la mouche ou vous savez comment se développent les mouches, plus ou moins, non? Oui. La mouche, là on va juste parler de l'aile pour l'instant, je viendrai sur la mouche plus tard, parce qu'il y a une grande partie du cours qui est dédiée aux mouches. Là par exemple c'est un disque imaginal d'aile, c'est-à-dire un petit amas de cellules embryonnaires qui va se différencier en aile chez la drosophile, c'est plus chic. Et là vous avez la région postérieure de l'aile, et là vous avez la région antérieure de l'aile. Et vous voyez que là, il y a une molécule qui s'appelle le décapataplégique, je reviendrai, donc ce n'est pas important, dont on peut, quand on la lie à un marqueur fluorescent, qui est une protéine fluorescente, la GFP, la chromatine fluorescente protéine, voir la distribution. Hein. Donc vous voyez, elle peut être sécrétée ici, et puis elle va aller diffuser. Et ce que vous voyez ici, c'est la concentration intracellulaire. De ce facteur qui est un morphogène, DPP est un morphogène. Et là, vous voyez ce qui se passe dans l'extracellulaire, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout la même chose. Donc déjà, ça vous dit que voir l'étendue, par exemple, de déplacement d'un morphogène, ça va dépendre de là où vous regardez. Est-ce que vous regardez dans la cellule? Est-ce que vous regardez en dehors de la cellule? Et plus que ça, ça va dépendre où vous regardez dans la cellule, par exemple, voilà des cellules ici qui sont donc des cellules de l'aile. Maintenant, je regarde dans ce plan-là. Voilà mes cellules. Et ici, j'ai d'autres cellules qui les couvrent. Hein. Et donc, c'est là que la protéine va être sécrétée. C'est dans cet espace intercellulaire qu'on appelle la lumière. Mais quand je suis sécrété ici, je suis sécrété par ce qu'on appelle le pôle apical de ma cellule. D'accord ? Maintenant, si maintenant je fais une coupe dans cet endroit-là, et que voilà ma coupe, maintenant je la mets à plat, je regarde. Donc ça, c'est une cellule, ça correspond à ça. Et vous voyez que si je suis sécrété de ce côté-là, je n'ai pas du tout le même environnement cellulaire. Donc en fonction de l'endroit où mon morphogène va être sécrété, apical ou basolatéral, je n'ai pas du tout à avoir le même environnement. Et en particulier, si je suis sécrété dans ce truc-là, là, si je suis sécrété à l'extérieur, je vais diffuser peut-être très facilement, hein. Voilà, je vais aller couvrir toute la surface de mon disque imaginal. Mais si je suis sécrété ici, du côté basolatéral, je suis rentré dans un corridor incroyable où je vais avoir beaucoup de mal à me déplacer. Et le déplacement d'une molécule dans un environnement de ce genre est un déplacement qui est une sorte de marche au hasard. C'est plus de l'agitation thermique, de la diffusion par agitation thermique, à moins que j'ai quelque chose qui me transporte. Donc, la géométrie même du domaine dans lequel je suis sécrété est quelque chose d'important quand je veux construire un modèle. Donc, je peux toujours construire un modèle en faisant abstraction de tout. Hein, mais si je veux construire un modèle qui tienne compte de la réalité, il faut quand même que j'ai une petite idée de ce que j'ai dans ces espaces, du nombre de molécules, de ce qui se passe avec mes molécules. Donc vous voyez par exemple ici, mes molécules vont arriver par ce côté-là, je les balance en plus, et là il va encore se passer d'autres problèmes, c'est-à-dire que je peux me fixer à un récepteur, hein. Je peux être endocytosé avec une constante évidemment d'endocytose, là j'ai une constante de diffusion, et puis j'ai aussi des constantes de dégradation. Donc il y a toutes sortes d'éléments, depuis la géométrie de mon espace jusqu'à sa composition chimique et puis la capacité qu'ont les cellules de capturer les morphogènes ou au contraire de les laisser partir, qui font que je ne suis pas dans un système qui est une boule que je laisse descendre sur un billard incliné. Ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Et il faut avoir conscience du fait qu'on ignore énormément de choses de la façon dont sont construits, si vous voulez, ces environnements moléculaires dans une aile de mouche, mais aussi bien dans un membre de poulet ou de sapiens. Donc là, vous avez un autre exemple, qui est l'exemple classique sur lequel je vais revenir assez longuement sinon dans ce cours-là, ça va dépendre un tout petit peu à quelle vitesse on va. Vous pouvez m'interrompre quand vous voulez, hein, je l'ai déjà dit, donc c'est pour ceux qui viennent d'arriver. Donc, selon la vitesse à laquelle on va voir, mais ça, c'est l'exemple classique de bicoïde. Donc, dans ce moment, une mouche, c'est comme tous les organismes, il y a un avant, il y a un arrière. Donc, si vous prenez un embryon de mouche, il y a la tête, il y a la future tête, il y a la future queue. Et une des molécules qui est impliquée dans la définition antéro-postérieure de cet embryon, qui fait à peu près 500 microns chez mélanogaster, ça s'appelle bicoïde. Donc, c'est une molécule qui, pour des raisons sur lesquelles on va discuter un petit moment, sont synthétisées à partir de leur messager à l'avant de la mouche, ici. Et puis vous voyez que vous avez la protéine est donc synthétisée là, et on pense, mais là c'est un vrai problème, on pense que la protéine va aller diffuser le long de l'axe antérieur de la mouche, vous voyez, de 0 à 500 microns, avec un gradient exponentiel, de forme exponentielle. Si vous prenez le logarithme, vous avez à peu près une ligne droite. Ça, c'est mesuré par des techniques d'immunocytochimie. Et puis vous pouvez calculer un certain nombre de constantes sur ces bases, qui sont des mesures quand même. Sur des bases, il y a une constante, par exemple, ce qu'on appelle le module de Thiel, qui est quelque chose qui a été inventé par les ingénieurs, qui est sans dimension, qui ne dépend donc pas de la taille de la mouche. Ça, c'est pas mal, parce que Drosophila, il y en a des petites, puis il y en a des grosses, allez voir. Donc, il n'y a pas qu'une seule espèce de Drosophila. Et donc, ce qu'il démontre là, c'est que pour fitter avec ça, il faut un module de Thiel de 5, ce qui permet de... Ça, c'est la constante de dégradation, ça, c'est la constante de diffusion, ça, c'est la longueur de la bestiole. Donc, on peut faire toutes sortes de modèles comme ça, qui sont évidemment très intéressants. Le problème, c'est de savoir si ça correspond à quelque chose de réel. Et si ça ne correspond pas à quelque chose de réel, savoir comment ça peut nous aider à comprendre ce qui se passe réellement, parce que ce soit faux, ce n'est pas grave. Mais il faut que ce soit faux ou ça nous oblige à trouver des choses, plutôt que ce soit faux, que ça nous empêche de trouver des choses. Ça, c'est essentiellement la façon d'utiliser les modèles. Ça dépend de celui qui les utilise. Et aussi du dogmatisme de celui qui les propose. Donc ça, c'est une autre affaire. Donc là, je vais vous donner un autre exemple des complications que ça pose. C'est un article relativement récent aussi. Voilà, ici, c'est un morphogène, disons X, n'importe lequel, qui va être synthétisé à l'avant, qui va diffuser, voici ici, à environ 120 microns. Classiquement, un champ morphogénétique, ça peut varier, si on en croit les spécialistes, entre, disons, une vingtaine et une centaine de cellules, pas beaucoup plus. Donc, ce que vous voyez ici, c'est le truc classique. Alors, ce qui veut dire... Il y a deux façons pour un morphogène d'avancer. Ça peut être balistique, j'envoie le morphogène, comme ça, ou bien simplement je suis synthétisé et puis j'ai une marche chaotique, c'est-à-dire en fonction de la concentration et du mouvement thermique, l'agitation, je vais diffuser. J'ai une source. Donc voilà ici un morphogène qui est synthétisé ici et qui diffuse le long de cet axe, de la distance. Voilà ce qui se passe ici si vous avez un système balistique. C'est-à-dire que si je prends mon morphogène et que je provoque une force, je l'envoie, si ici je mets une petite barrière, alors ça peut être quoi une barrière? Ça peut être par exemple des récepteurs qui vont le fixer, comme ça, c'est-à-dire qu'il avance, il y a des récepteurs, il s'accroche. Mais si je le lance, je vais avoir une accumulation, si donc je vais avoir un patron de ce type. Mais je ne vais pratiquement pas passer de l'autre côté parce qu'à chaque fois, je vais être bloqué par la barrière. Mais si c'est un mouvement de type agitation thermique, c'est-à-dire que si mon morphogène diffuse calmement et qu'il se détend parce qu'il y a simplement un gradient de concentration, eh bien, je vais le plus souvent, d'accord, je vais avoir un petit machin, mais je vais tourner en fait autour de l'obstacle, hein, et puis je n'aurai pas ce pic ici. Donc, ce sont deux façons de voir la diffusion d'un morphogène complètement différentes, comme vous pouvez voir. Et si je reviens en arrière, hein, dans un système comme ça, on pourrait dire, oublions qu'il y a des molécules qui vont le fixer, hein. Oublions que c'est simplement une géométrie contournée. Ben, le fait d'avoir une géométrie contournée, si je n'ai pas un système balistique, ça ne va pas empêcher mon morphogène de se promener. C'est-à-dire qu'en fait, ça va être indépendant de la géométrie de la chose, parce qu'au fond, il s'en fiche des obstacles. Comme c'est un mouvement aléatoire, il va aller tourner autour. Évidemment, si je le fixe avec des récepteurs, avec des sucres complexes ou des choses comme ça, évidemment, ça va être très différent. Monsieur.
Vous avez parlé de régénération tout à l'heure. Il y a des animaux qui ont des régénérations unipolaires et d'autres bipolaires. Alors là, vous faites allusion à quelque chose qui correspond à une bipolarité. Il y a une tête, il y a une queue.
Là, je suis dans les très grandes généralités. On va revenir à la génération un peu plus tard, si vous voulez bien, parce que ce que j'aimerais, c'est juste pour l'instant vous brosser un tout petit peu quels sont les problèmes que les gens qui travaillent sur les morphogènes rencontrent.
Il y a une bipolarité.
Vous savez, c'est dès qu'il y a dès qu'on est deux, il faut savoir qui est devant, qui est derrière. Donc dès qu'il y a plus de deux cellules, que c'est un organisme, il faut que ça se construise. Il y a un qui est devant, il y a l'autre qui est derrière, il y a un qui est dessus, l'autre qui est dessous. C'est nécessaire, et ça, c'est codé dans l'organisme, en particulier par des morphogènes, bien sûr, mais aussi par des gènes qui déterminent quelle est la position des cellules et qu'est-ce qu'elles font en fonction de cette position. Parce que cette histoire de morphogène ne nous intéresserait pas si derrière ça, il n'y avait pas, en fonction de la concentration de morphogènes, la mise en route de programmes développementaux qui indique à une cellule non seulement qu'elle est là, mais que parce qu'elle est là, elle doit faire ceci ou faire autre chose. Alors, une des définitions des morphogènes, c'est que, au fond, si votre système est disons que vous avez voilà votre plan d'organisme, c'est ici un morphogène qui est synthétisé ici, on va le faire diffuser tranquillement. Là, vous allez voir tout de suite, c'est le fameux système du drapeau français. De Volpert où on estime qu'il y a une diffusion du morphogène et puis il y a des effets seuil, c'est-à-dire jusque là on est bleu, là on est vert, là on est jaune, on est rouge, toutes les cellules vont répondre par la mise en route d'un programme de différenciation qui est lié à la concentration de morphogène dans une certaine fourchette parce qu'il y a des effets seuil. Donc une des définitions des morphogènes, c'est que si je greffe une autre source de morphogène ici, eh bien, je vais pouvoir faire un organe double. C'est-à-dire que je vais avoir, puisque vous parliez de tête, hein, je vais avoir ici la tête et la queue, mais si je vais avoir la tête et la queue et la tête. C'est-à-dire que je vais avoir un truc qui se développe dans les deux sens. Donc, effectivement, c'est chose qui arrive. Hein. Voilà, ici, ça, c'est un autre morphogène sur lequel je discuterai un moment, qui s'appelle Hedgehog. Vous voyez ici, dans une aile de mouche, à nouveau, ça, c'est ce qu'on appelle les veines, mais c'est un petit peu comme les doigts, si vous voulez. Les veines dans l'aile de la mouche, c'est un petit peu comme les doigts dans une main. Hein. Faut voir ça comme ça. Donc, ils avaient 1, 2, 3, 4, 5. Hein. Et Hedgehog est sécrété ici, à la frontière antéro-postérieure. Hein. Maintenant, si je mets un petit explant d'Hedgehog ici, ou si je fais sécréter un petit peu d'Hedgehog dans une partie où Hedgehog n'est pas normalement sécrété, vous voyez que je vais dupliquer mon aile, c'est-à-dire que je vais donner à ces cellules qui sont ici une information qui n'est pas l'information correcte. Donc en fait, je vais avoir 1, 2, 3, 4, 5, plutôt 1, 2, 3, 3, 2, 2, 3, 4, 5, etc. Donc je vais partiellement refaire une petite bout d'aile ici. Je ne vais pas tout faire, ça va dépendre de la quantité de tissu, ça va dépendre de la quantité de morphogène, etc. Et ça, je peux le voir aussi dans la formation d'une aile de poulet. L'aile de poulet a été un des grands outils des gens qui travaillaient sur les morphogènes entre les années 30 et les années 60. Hein. Donc vous voyez ici par exemple que vous avez une zone, alors si vous mettez le poulet à plat comme ça, il y a ce qui est antérieur, il y a ce qui est postérieur. Hein. Donc imaginez le poulet à plat avec ses deux pattes comme ça, antérieur, postérieur, ses deux pattes ou ses deux ailes, puisque c'est le seul vertébrés bipèdes à part l'homme, l'oiseau. Donc voilà le parti postérieur. Si j'ai ce nick qui est exprimé ici au niveau d'une zone qui s'appelle la ZPA, eh bien, je vais avoir une diffusion de mon morphogène. Et l'idée, qui est fausse d'ailleurs, mais ce n'est pas grave, c'est le principe, ce n'est pas forcément comme ça que ça se passe. Pour ceux que ça intéresse, je pourrais apporter la semaine prochaine le dernier article de Louis Volpert qui revisite cette question avec les données actuelles de l'embryologie moléculaire. Mais l'idée est juste néanmoins, sur le fond, ce nick a une concentration variable depuis ici jusque-là, et donc, et en fonction de la concentration, les cellules vont se condenser pour faire du cartilage du doigt 2, du doigt 3 ou du doigt 4, hein, puisqu'il y a trois doigts chez les poulets. Mais si maintenant je prends une petite bille et que je greffe dans la région antérieure de mon bourgeon une petite bille dans laquelle j'ai fait comme ça, j'ai mis un petit peu de Sonic Hedgehog dessus, eh bien vous voyez que je vais avoir une nouvelle duplication, c'est-à-dire que comme il y a beaucoup de Sonic, les cellules-ci s'imaginent, entre guillemets, qu'elles sont le doigt 4, parce qu'elles ont vu beaucoup du morphogène, donc elles se condensent en doigt 4, 4, 3, 2, 2, 3, 4, c'est-à-dire que je duplique mon bourgeon, c'est-à-dire que j'ai maintenant un animal qui a une patte à 6 doigts, mais c'est une image en miroir, si vous voulez, par rapport à cette zone de cette partie de la patte. Pour certaines personnes, et je pense que c'est justifié, c'est une des définitions qu'on peut avoir de ce que c'est qu'un morphogène.
Oui ?
Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas deux ailes ? Oui, ça, c'est une bonne question.
Il y a deux ailes.
Non, il n'y a qu'une seule. Enfin, il n'y a qu'un seul, si tu veux, au départ, il n'y a qu'un seul disque embryonnaire. Hein. Donc, au départ, on pense. Bon, on pourrait l'appeler deux ailes dont une est inversée, si tu veux. On pourrait l'appeler ça comme ça. D'ailleurs, c'est ce qui se passe dans le mutant bithorax. On a la transformation d'un segment à un autre segment, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir. À ce moment-là, il fait deux ailes parce qu'il a deux segments, mais on peut dupliquer. C'est un peu difficile. Je ne sais pas vraiment ce qui se passe là, pour te dire la vérité. Parce qu'on peut imaginer qu'aussi j'ai de la prolifération cellulaire, c'est-à-dire que je vais augmenter la taille de mon disque. Hein. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça se passe. Vous allez remarquer très vite, je ne suis pas du tout un spécialiste de la drosophile. Mais c'est un modèle très intéressant pour toutes sortes de raisons. Donc peut-être qu'il y a de la prolifération cellulaire aussi, qui fait qu'il y a plus de place pour refaire une deuxième aile qui sera en miroir de la première. Il n'est pas du tout exclu, mais c'est même probable que les morphogènes sont aussi des facteurs de croissance qui peuvent provoquer de la prolifération cellulaire. Donc ces choses-là sont assez compliquées. Je vous ai dit, je vous raconte des choses que je n'ai pas entièrement comprises moi-même. Donc je réclame le bénéfice de l'honnêteté. Sinon du doute. Alors là, on dit, ouais, on ne sait pas si c'est un morphogène. Alors, les puristes, en particulier Tabata et Takei, c'est eux qui donnent une définition tout à fait précise de ce que c'est qu'un morphogène, disent, oui, mais alors, Sonic Hedgehog, par contre, dans le cas de la moelle épinière, là on passe chez des vertébrés, là. Un vertébré, c'est je ne sais pas si vous avez remarqué, mais vous avez les membres qui sont en avant, c'est-à-dire que plutôt ventraux, c'est-à-dire que les motoneurones qui vont aller innerver les membres, sont situés dans les parties, chez l'homme c'est antérieur de la moelle, et chez le quadrupède c'est ventral, hein, normal. D'accord. Donc ici vous allez avoir des motoneurones qui sont plutôt en position ventrale et qui vont fabriquer les nerfs, qui vont aller innerver les muscles, hein, les jambes aussi. Donc, il y a une polarité dorso-ventrale du tube nerveux, ça c'est la moelle épinière. Je peux faire un essai, ça, j'espère que je vais y arriver, hein, parce que là c'est vraiment. On va utiliser le. Voilà. Comme ça on a un joujou, on va quand même essayer de l'utiliser. Hein. Donc, si vous avez. Vous voyez le tube nerveux au début. Ça, c'est formidable parce qu'on ne voit rien de ce qu'on fait. Le tube nerveux au début, c'est une plaque, hein, comme ça. Donc vous avez ici ce qui est au milieu, puis ici vous avez les bords. Quand ça va se fermer, ce qui est ici va devenir ventral. Et puis ici, c'est dorsal. Donc vous avez des morphogènes qui sont sécrétés à ce niveau-là, qui vont les diffuser comme ça, et puis il y a des morphogènes qui vont être sécrétés ici, qui vont les diffuser comme ça. Ce qui fait qu'à chaque endroit de mon tube, je sais à peu près où je suis. Donc, ici, au niveau de la notochorde, il y a toujours, alors c'est plus Hedgehog, maintenant c'est Sonic Hedgehog, parce qu'on est chez les vertébrés, et qui va les induire Hedgehog ici, puis ça va les diffuser. Donc on dit que c'est un morphogène. Et en fonction de la concentration de Sonic, on va essayer de revenir en arrière, vous allez voir si ça marche. Presque. Pas vraiment, mais bon. Là, je vais essayer de revenir. On va voir. Bon, je vais revenir sur le PowerPoint comme ça. Ben non. On l'a perdu. Que j'ai pas tout l'écran là, je peux essayer d'avoir tout l'écran ou pas? Comment? Celui-là là? Formidable. On est Mac ou on n'est pas Mac, hein, ça c'est un truc. Donc ici j'ai ma notochorde qui va sécréter du Sonic, qui va induire Sonic dans ce qu'on appelle la plaque du plancher, c'est-à-dire la partie la plus ventrale, qui va donc aller diffuser. Là, vous voyez ce que les petits points bleus là, c'est les gradients. Et en fonction de la concentration de Sonic, puis d'un autre morphogène qui est d'origine dorsale, qui s'appelle une BMP, eh bien, vous allez décider que les cellules qui sont là vont décider qu'elles vont adopter des destins particuliers. C'est la définition même d'un morphogène, bien entendu. Et donc, vous voyez qu'ici, vous avez les motoneurones. Alors, ce qu'ils ont fait, ici, dans cette manip, c'est qu'ils ont mis un récepteur qui va bloquer Sonic, qui s'appelle Patch. Donc, quand Sonic arrive, je l'arrête. Et du coup, ma concentration, mais il n'est pas actif. Je l'arrête, mais il n'est pas actif. Fait qu'en fait, ma concentration locale, vous voyez l'espacement des points ici qui est très faible, va correspondre à celle que je trouve ici. Et du coup, au lieu de faire un petit peu de motoneurone et puis un petit peu de P3, eh bien, ce que je vais faire, c'est quelque chose qui ressemble à P1, c'est-à-dire à ces cellules qui sont à ce niveau-là. Donc, ça, c'est la preuve, si vous voulez, que la formation, l'échange de la concentration de mon morphogène va induire dans mes cellules un programme de différenciation qui n'était pas prévu, c'est-à-dire que c'est un programme qui est trop dorsal par rapport à la position. Donc, c'est un petit peu embêtant. Les premières manips qui étaient faites par quelqu'un qui s'appelait Tom Jessel avaient consisté à prendre de la notochorde et à la greffer en région dorsale. Et quand on fait ça, au lieu d'avoir deux paires de motoneurones, enfin deux paires de ensembles de motoneurones qui vont faire les... On en a deux ici, puis autour de là, on en a aussi, parce qu'on a ventralisé. D'accord. Donc on peut modifier l'information dorso-ventrale du tube nerveux en jouant sur les concentrations de Sonic. Donc de ce point de vue, on peut dire que effectivement, Sonic, là, agit selon ce qu'on pense être un morphogène. Alors là, je reviens un tout petit peu sur des questions difficiles à trancher. Et une de ces questions, c'est celle-là, c'est-à-dire que, bon, voilà ici mon morphogène qui est sécrété, d'accord. Donc, il va diffuser. Bon, on a vu, si je le sécrète là, il va se passer des choses. Si je le sécrète ici, du côté basolatéral, ça va marcher autrement. Mais même si je l'envoie là, est-ce qu'il va diffuser librement? Donc, la question de... Et on y reviendra dans la troisième leçon, normalement. Donc, la question de la diffusion est une question vraiment fondamentale. Donc, il y a des aides, si vous voulez, à la diffusion. Par exemple, ici, c'est ce qu'on appelle les cytonèmes. C'est une structure qui a été découverte, sinon inventée, par Kornberg, hein, où une cellule envoie un tout petit filament, comme un petit bras, hein, vous voyez ici, hein, qui est entièrement plein d'actine que personne n'avait vu, enfin ça avait été vu dans les oursins il y a très très longtemps, mais on n'avait pas fait très attention. Mais qui sont des filaments d'actine qui ne résistent pas à la fixation. Donc quand on fixait les cellules, parce que ça aussi c'est un problème, vous allez voir, la fixation c'est un vrai problème. Donc quand on fixait les cellules, on ne les voyait pas. Donc ces cytonèmes vont aller chercher les morphogènes, et hop, se les ramener. Donc là, il n'y a plus de diffusion. Je veux dire qu'on a un système qui facilite énormément, puisque je vais aller chercher mon morphogène et je vais me le ramener. D'accord ? Donc là, une autre solution, c'est que ça ne diffuse pas du tout, c'est que c'est la transcytose. Le morphogène est sécrété entre les cellules, hop, il est capturé, puis il passe comme ça par endocytose, par transcytose. Endocytose, exocytose, endocytose. Donc là, si j'ai un système comme ça, je peux aller très loin sans jamais aller ni à l'intérieur ni à l'extérieur. Ce qui est assez pratique, ce qu'on appelle les argosomes. Hein. Donc, toutes sortes de façons, pas forcément d'ailleurs exclusives, c'est-à-dire que la même molécule peut voyager de diverses façons. Hein, c'est pas interdit. Alors, c'est assez donc difficile de savoir jusqu'où va un morphogène, comment il y va, avec quelle vitesse. Une des façons de faire, une des plus simples finalement, c'est de regarder l'effet du morphogène. Parce que là, vous avez vu que je peux transformer une cellule en motoneurone, par exemple, ou un motoneurone en cellule sensorielle plus dorsale. Et là, je vous montre l'exemple, par exemple, pour DPP, donc décapataplégique, dont je vous ai déjà parlé, qui est un morphogène. Donc. Voici ici Hedgehog, qui est dans la région postérieure. C'est toujours mon disque imaginaire d'aile de drosophile. Hein. Donc j'ai Hedgehog dans la région antérieure. Hedgehog induit la formation de DPP. Voilà ici, en rouge, mon DPP. Hein. Et là, c'est un DPP GFP, c'est-à-dire que je peux le voir diffuser, je peux voir comment il se diffuse. Et vous voyez, une chose immédiate, hein, c'est qu'il diffuse plus dans les régions antérieures que dans les régions postérieures. Voilà. Il diffuse plus dans les régions antérieures, on ne sait pas très bien pourquoi. Il diffuse moins dans les régions antérieures, probablement parce qu'il est dégradé. C'est-à-dire qu'il y a un système d'endocytose qui permet de le manger plus vite. Donc la constante de dégradation est évidemment importante dans l'étendue de mon champ morphogénétique. Bon, ça, c'est la molécule N-grel qui, elle, régule l'expression de Hedgehog. Hein. Donc, si je regarde maintenant la cible, c'est-à-dire que quand j'ai DPP touche son récepteur, il phosphoryle une protéine qui s'appelle MAD. Donc, si je phosphoryle MAD, je sais que j'ai eu une concentration efficace de mon morphogène. Vous voyez donc ici, même si je diffuse moins, je suis drôlement efficace, je phosphoryle tout le monde. Et là, une lacune dans la phosphorylation, hein, parce que j'ai inhibé, parce que Hedgehog en même temps a inhibé FIXN, qui est important pour l'expression de MAD. Et donc il faut que j'aille un tout petit peu plus loin, hein, que j'ai éliminé FIXN, hein, pour pouvoir voir l'action de nouveau de mon GFP. Donc en fait, même si j'ai plein de DPP-GFP là, vous voyez que l'activité ne correspond pas forcément à l'activité réelle, celle qui est l'activité qui va conduire à de la transcription et à la mise en place de programmes, ne dépend pas forcément de la concentration. En fait, elle va être moindre ici, elle va être plus forte ici quand je suis plus loin. Donc tout ça, ce sont des questions qui évidemment méritent. Il faut avoir tout ça en tête quand on pense au modèle de gradient morphogénétique. Donc maintenant, on va revenir sur un ou deux modèles. Et le modèle, le grand modèle, celui qui nous a tous intoxiqués, et qui est un modèle très intéressant parce qu'il nous a vraiment fait penser, mais vous allez voir qu'il y a plein de problèmes avec ce modèle, c'est le modèle dit du drapeau français, qui a été donc proposé en 1969, je crois, par quelqu'un qui s'appelle Louis Volpert, qui j'espère va venir au mois de janvier. Je l'ai invité, mais il a dit qu'il viendrait, puis après il m'a dit qu'il avait un problème personnel, qu'il ne connaissait pas la date. Mais je vous préviendrai de sa venue, parce que c'est quelqu'un d'extraordinairement intéressant à entendre. Donc le problème qu'avait, la façon dont Volpert a posé la question des morphogènes, qui au fond est une façon de voir qui continue à nous, j'avais dit intoxiquer, mais c'est un petit peu vrai. C'est-à-dire qu'il est très difficile de s'échapper du modèle du drapeau français. C'est un Anglais qui a dit ça, hein. Donc ne voyez là aucune marque de nationalisme inconsidéré. Et d'ailleurs, je ne vous ai pas lu la lettre à Guy Moquet pour démarrer. De Guy Moquet. Donc, ce que vous pouvez voir ici, c'est que j'ai une source, hein, et ma source, et puis j'ai ce qu'on appelle un sink, un puits. Hein. Et le fait d'avoir une source qui sécrète et un puits qui dégrade peut me permettre d'imaginer que dans mon système, je vais avoir un gradient de morphogène qui va s'installer. Et la grande, je crois que la grande beauté du modèle de Volpert, c'est d'avoir dit qu'il faut voir les choses au niveau cellulaire. C'est-à-dire qu'on ne peut comprendre, pas tellement au niveau moléculaire au départ, il faut comprendre que c'est un phénomène cellulaire. C'est-à-dire que les cellules vont être exposées à différentes concentrations du morphogène, et si je mets des effets seuil, hein, eh bien je peux imaginer que dans une concentration 100 à 66, je vais être bleu, 66 à 33, je vais être blanc, et 33 à 0, je vais être rouge. D'accord ? Donc mes cellules répondent toutes ici au seuil, et donc vont faire ce que l'on appelle le drapeau français bleu, blanc, rouge. Hein. Ça aurait pu être italien, ça aurait été vert, blanc, rouge, mais c'est pas un problème. Donc, du coup, je peux faire des bords. Hein. Parce que la question, c'est quand même de faire des bords. Hein. Si vous prenez un membre, pour s'en tenir à des bords extrêmement évidents, vous avez la main, vous avez l'avant-bras, vous avez le bras, hein. Ça part quand même d'un bourgeon, hein. Donc j'ai fait des bords, et en fonction de la position dans laquelle je suis, je ne vais pas faire le même organe. Donc ça, c'est un tout petit peu le phénomène tout à l'heure de Sonic Hedgehog. Si on veut bien admettre que Sonic Hedgehog dans le bourgeon, c'était correct, le bras 2, le bras 3, le doigt 2, le doigt 3, le doigt 4, d'accord, qui vont se différencier en 2, 3, 4 en fonction de ce qu'ils vont voir comme concentration de Sonic. Hein. Donc on peut imaginer que ça, c'est Sonic, et que ça, sont les trois doigts de mon poulet. En gros, c'est à ça que ça correspond. Ce qui veut dire qu'en fonction des concentrations, mes cellules vont mettre en route, bien entendu, des programmes morphogénétiques distincts. Hein. Ce qui pose une autre question, bien entendu, derrière tout ça, c'est la question de comment les cellules interprètent les gradients, ce qui n'est pas une question mineure. C'est quand même la question la plus importante. Comment est-ce qu'une cellule est capable d'interpréter un gradient? Comment elle sait qu'il y a un seuil? Ou comment elle sait qu'il n'y en a pas? Parce que rien ne prouve qu'à l'intérieur du bleu, tout le monde est bleu de la même façon. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, si là je dis je suis capable de voir une différence de 33%, peut-être qu'en fait les cellules sont capables de voir une différence de 2%, ou de 5%, ou de 10%, et que 33% c'est juste le bleu, mais que dans le bleu, il y en a qui sont différentes en fonction de la concentration de morphogènes qu'elles ont vues. Donc, et ça pose évidemment la question de la sensibilité au morphogène, ça pose la question de comment j'interprète un gradient de morphogène, qu'est-ce qui se passe dans ma cellule quand je mets un morphogène dessus, une chaîne de réactions moléculaires extrêmement complexe, à laquelle Volpert a voulu qu'on ne pense pas, hein, en disant il faut regarder les choses au départ au niveau cellulaire, parce que sinon, on est perdu. De toute façon, on est perdu. Mais... Donc voilà, il, dans cet article donc, de 1996, donc presque 30 ans après son premier article sur le drapeau français, il revient sur cette histoire et il montre effectivement comment on peut, comme je vous le disais, interpréter les doigts 2, 3, 4 en fonction de ces concentrations. Et puis, comme je l'ai déjà fait remarquer, on peut imaginer la même chose avec les questions de l'aile de la mouche. Hein. Remarquez que je vous ai parlé des jogs pour la mouche et de Sonic et jog pour le poulet, c'est-à-dire que c'est aussi une autre chose intéressante, c'est que ces morphogènes sont drôlement bien conservés, je veux dire, au cours de l'évolution. Hein, donc, et aussi au cours du développement, ils agissent de façon redondante. Donc ça, c'est une chose à... L'autre élément, c'est que ça fonctionne, c'est-à-dire que le morphogène va vous donner une information de type position, hein, mais... ça ne va pas être traduit de la même façon dans toutes les cellules, ce que je vous disais, c'est-à-dire comment une cellule interprète. Hein. Alors, si je suis, voilà ici, avant la différenciation, je prends un amas de cellules dans cet endroit-là, qui a été soumis normalement à une concentration forte de morphogène, et je le mets dans la région postérieure. Hein. Comment est-ce qu'il va se différencier? Donc, si je le prends dans un disque qui aurait dû donner un drapeau l'Union Jack, hein, un drapeau anglais, voilà, je le prends là et que je le greffe ici et il va me faire le morceau de drapeau anglais dans le drapeau français, c'est-à-dire que l'information de position va être conservée mais le programme de différenciation aussi va être conservé en fonction de là où je l'ai pris, c'est-à-dire que ça ne va pas forcément me complémenter, ça ne va pas être rouge là, hein, ça va correspondre en fait à ce que je vois ici. Donc ça c'est un des éléments du modèle. Je n'ai pas dit que ça se passait comme ça. C'est un des éléments du modèle. Et pour ce qui est de la régénération, monsieur, il y a deux façons de régénérer. Voilà, ici, j'ai pris mon drapeau français intact et je l'ai coupé par le milieu. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si j'ai pris une hydre, hein, et je coupe au milieu. Donc j'ai deux façons de faire. Je peux faire une petite hydre, du coup, c'est-à-dire réorganiser tout le système, ce qu'on appelle la morpholaxis. C'est une réorganisation sans prolifération cellulaire, ou avec très peu de prolifération cellulaire, bien entendu, où mon gradient va se rééquilibrer avec un nouveau puits ici. Hein. Donc je vais refaire un gradient, mais beaucoup plus pentu, mais j'aurai toujours mes trois parties, hein, mes trois effets seuils. Donc en fait, je vais me faire un petit drapeau avec ce qui me reste de tissu, d'une certaine façon, en réorganisant mon information positionnelle. L'autre solution, qui est plus sympathique, parce que je garde la même taille, c'est que ce qu'on appelle l'épimorphisme, c'est-à-dire que j'ai de la prolifération cellulaire, hein, et donc je vais régénérer, et après avoir régénéré, je vais reconstituer un pattern. Dans cette façon de reconstituer des patterns quand on a régénéré, c'est quelque chose qui est... C'est pas évident. C'est-à-dire que si vous prenez une souris et que vous lui coupez la moelle épinière, hein, vous faites une section, ça repousse pas. Hein, bon, il y a des cellules souches et tout ça, c'est intéressant. Mais au fond, vous ne refaites pas un vrai patron de différenciation. Alors que si vous prenez un axolote, vous prenez une salamandre, et que vous lui coupez la moelle épinière, et je vous apporterai peut-être des données là-dessus à la dernière séance, par exemple les derniers papiers de Eli Tanaka, vous coupez, vous avez des cellules mésenchymateuses qui se différencient, qui refont des cellules souches, qui prolifèrent, et qui vous refont un superbe tube nerveux. Et ça marche aussi pour le cerveau, c'est-à-dire que vous prenez le midbrain, là où il y a tous les neurones dopaminergiques qui vous font qui sont bons. Dopamine, c'est vraiment important. C'est pour tirer la dopamine, vous êtes parkinsonien, puis il y a plein d'autres trucs très embêtants. Pour tirer ça chez une souris, ça ne repousse pas. Hein. Oui, il y a des cellules souches, bien sûr, mais ça ne repousse pas quand même. Vous prenez ça chez une salamandre, vous lui coupez un morceau du cerveau, ça repousse et vous faites une salamandre tout à fait raisonnable, présentable. Donc on a perdu entre ces vertébrés dits inférieurs et on a perdu ces capacités de refaire des patrons. Et évidemment, ce serait très intéressant de savoir comment on peut refaire des patrons. Parce que c'est bien gentil d'avoir des cellules souches, mais encore faut-il qu'elles se réorganisent pour faire des choses intéressantes. Donc comparer un vertébré inférieur à un vertébré, je dirais pas supérieur, ce serait prétentieux, mais par exemple un poulet ou un mammifère, et comprendre pourquoi dans un cas je peux refaire un patron dans l'autre cas, c'est-à-dire en fait pourquoi dans un cas mes morphogènes se remettent à faire quelque chose qui a un sens sur le plan de l'organisation des cellules entre elles, hein, et que dans l'autre cas, ben, je suis juste capable de proliférer des cellules qui font des boules, mais qui ne m'arrangent pas franchement la vie. Si on peut arriver à comprendre pourquoi il y a une différence et qu'est-ce qui est la base de cette différence, bien évidemment, ça aurait des conséquences intéressantes. Pour se réintroduire un peu de plasticité de temps en temps. Mais pas trop. C'est pas bon d'être trop plastique. Ah oui, on oublie tout. Si vous êtes trop plastique, vous ne savez jamais où vous avez garé votre voiture, qui est votre femme ou votre mari. La plasticité maximum, c'est l'Alzheimer. Donc on a gagné, on a perdu en plasticité, on a gagné en mémoire. Mais il y a un prix à payer. Hein. Le jour où vous avez un problème, ça ne repousse pas. Donc, il faut savoir ce qu'on veut. Donc, ça, c'était en 96, hein, 69-96. Et donc, pour ceux d'entre vous qui sont vraiment intéressés par ces histoires, c'est intéressant, Wolbert, parce qu'il revient toujours son histoire, il a toujours un œil critique. C'est-à-dire que maintenant, il ne pense plus qu'à la diffusion. C'est-à-dire que si vous discutez avec Wolbert, je l'ai fait il n'y a pas très longtemps, il me dit, tu sais, ça ne diffuse pas les morphogènes. Depuis 1969, il nous enquiquine avec les morphogènes qui diffusent, et maintenant il dit que les morphogènes ne diffusent pas, et j'espère qu'il viendra nous expliquer pourquoi. Donc lui, il pense qu'effectivement, ça ne peut pas diffuser. It's now becoming clear that additional or alternative mechanisms involving interactions among cells are also crucial for position information specification. Donc, C'est un article assez sympa qui a été fait avec Michel Gersberg, qui est sur les quais, qui apparaît 6. Et donc, je vous engage à le lire parce que je ne vais pas vous le raconter. Je ne pense pas qu'on ait le temps. Alors l'autre grand modélisateur a lui aussi intoxiqué tous les morphogénéticiens, il s'appelle Hans Meinhardt. Hein. Donc Hans Meinhardt, lui, il a aussi commencé avec les hydres. Cette histoire de refaire une queue, de refaire une tête suivant l'endroit où on coupe, c'est effectivement quelque chose qui a beaucoup intéressé les gens. Et il a un modèle qui est en fait un modèle qui est dérivé du modèle de Turing, hein, pour ceux d'entre vous qui connaissent le modèle de Turing. Donc en fait, vous avez un morphogène A qui s'auto-active, hein, et puis vous avez ce morphogène synthétise aussi la synthèse d'un inhibiteur. Donc si l'inhibiteur est très près de l'activateur, vous allez évidemment inhiber la synthèse de l'activateur, parce que l'inhibiteur, il va aller faire un rétrocontrôle. Mais si l'inhibiteur diffuse, à un moment, il va arriver à une concentration qui sera suffisamment faible pour que d'un coup, l'activateur se remette en route. En fait, c'est un système de réaction-diffusion un tout petit peu plus sophistiqué que celui de Turing, mais qui est totalement dérivé du système turingien. Et en faisant ça, vous pouvez comprendre que vous avez évidemment des pics réguliers comme ça, avec derrière la tête le modèle des métamères, en gros, chez la mouche, hein, dans ce cas-là. Donc c'est un très très joli modèle, c'est vrai. Vous pouvez le retrouver sur le site web de Meinhardt, en animé. Je n'ai pas fait d'animation parce que je trouve ça assez ennuyeux. En plus, vous avez vu que je ne suis pas très bon pour manipuler ces choses-là. Donc, mais c'est un modèle qui est... La dernière fois que j'ai vu Meinhardt, il n'y a pas très longtemps, il m'a dit « Mon modèle est tellement bien... » qu'on ne peut plus l'améliorer avec des expériences, en gros. Donc, donc ça, c'était vachement sympa. Tu peux faire tant de manips que tu veux. Si elles tombent dans mon modèle, c'est des bonnes manips. C'est ça que ça voulait dire. Mais si tes manips, ça ne colle pas avec mon modèle, c'est que tes manips, c'est un artefact. Donc, c'est assez dur, les gens comme ça, parce que... comme ils sont mathématiciens, ils sont beaucoup plus intelligents que nous. Donc, on se sent tout petit et tout timide. Voilà, bon, mais on a essayé quand même de lui placer un autre modèle récemment et je pense qu'il est meilleur que le sien.
Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.